suis-là, crois-tu que j'ai le pouvoir de ressusciter ton frère? » Et il dit, il va ressusciter, et il le fait. Jésus a fait beaucoup de promesses, puis de miracles qui se sont réalisés. Et même la promesse de la résurrection d'entre les morts. Où Jésus est un faux prophète, et ses prophéties ne se réalisent pas, où il est véritablement le Fils de Dieu. Et toutes ses paroles se réalisent. Et quand je regarde dans les Écritures, le tombeau est vide. Parce que Jésus avait promis que le tombeau serait vide. Et c'était suffisant. Il est le Fils de Dieu. Et toutes ses promesses, et comme on mentionnait dans Luc chapitre 18, tout ce qui était écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. Et à la croix du calvaire, comme on entendait quelqu'un prier ce matin, Jésus a dit, tout est accompli. Sa parole était fiable. Oui, on l'a livré aux païens, aux romains. Oui, on s'est moqué de lui. Oui, on l'a outragé. Oui, on l'a battu. Oui, on l'a crucifié. Mais oui aussi, il est ressuscité, parce qu'il l'avait promis. Et je peux me confier en ça. Le miracle du tombeau vide valide toutes les autres paroles, les autres promesses de Jésus. Jésus est la vérité. Et il a été déclaré Fils de Dieu par puissance, par la résurrection d'entre les morts. Quelle est la preuve que j'ai que le tombeau est vide? Premièrement, Jésus l'a dit que ça arriverait. Quelle est une deuxième évidence que le tombeau est vide? Bien, il y a plein de preuves historiques autour de ce tombeau-là qui est vide. L'histoire de Jésus me rappelle que le tombeau est vide. Vide, malgré l'opposition impuissante des gens qui étaient là. Le récit biblique des événements nous montre qu'il y a bien des gens qui ont voulu étouffer l'affaire. Puis ça ne marchait pas. Les chefs religieux, ils avaient entendu cette promesse-là. Il y a bien des promesses qui n'ont pas cru des chefs religieux, mais ils avaient cru à cette promesse-là que Jésus allait ressusciter le troisième jour. Alors, quand Jésus était crucifié et est mort, ils ont été voir le directeur romain, puis il a dit, « C'est-tu quoi? Savez-vous quoi? » Ce monsieur-là, il a dit une chose terrible. Il a dit que le troisième jour, il allait ressusciter. « J'aimerais ça que tu mettes la garde romaine devant son tombeau. » Vous en connaissez beaucoup de gens à travers les siècles, qu'on met 4 soldats armés aux dents, qu'on met une pierre de plusieurs tombes devant un tombeau, qu'on le scelle pour garder un mort au cas où il se lèverait. Les chefs religieux avaient une telle peur que Jésus qui avait dit qu'il ressusciterait, réaliserait ça, ils ont mis l'armée devant. Ils ont bloqué ça. Ils ont scellé ça. Garder un mort. Et savez-vous quoi? Ça n'a pas marché. Les soldats, le sceau, la pierre, comme on chante, n'ont pu le garder en terre. Parce que Jésus, l'histoire biblique me rappelle qu'il est ressuscité. Puis que le matin, le tombeau était vide. Puis ils l'ont jamais retrouvé. Et c'était pas les apôtres qui avaient le cœur d'aller le voler le dimanche matin. Les apôtres, le texte biblique nous rappelle qu'ils avaient sombré dans le désespoir. Le chef des apôtres, Pierre, le vendredi, il avait renié publiquement 3 fois jusqu'à demander la colère de Dieu, la malédiction de Dieu sur lui que jamais il connaissait ce gars-là. Le lendemain, il arrêtait près de ramasser une armée pour faire face aux soldats, pour sortir Jésus du tombeau. Non, les apôtres étaient dans le désespoir. Les femmes qui avaient suivi Jésus sont arrivées le dimanche matin très menaçantes face aux soldats. Il y avait des aromates, des parfums. Ça, c'est dangereux. Il aurait mis ça dans la face. C'est pire que le poivre de Cayenne, ça. Hey, ça. Ils sont arrivés armés d'aromates. Qu'est-ce qu'on faisait avec des aromates? On mettait ça sur un corps mort. On mettait pas ça comme déodorisant pour qu'il aille marcher et qu'il sente bon là, après. Là. Les femmes avaient la certitude qu'ils étaient morts, qu'ils étaient dans le tombeau. Et ils arrivent avec des aromates. Jésus a ressuscité en dépit du désespoir des apôtres, en dépit des femmes qui venaient pour l'embaumer. L'histoire de la Bible nous raconte même une gang de disciples qui s'en allaient, qui avaient quitté Jérusalem, puis qui s'en allaient sur le chemin de Emmaüs, désespérés, parce qu'eux, ils avaient mis leur espoir que ce Jésus qui était fort en miracle, en parole, en œuvre, qui serait le libérateur d'Israël. Puis là, ils disent à Jésus, en réalité, qui l'accompagne, ils ne savent pas. Ils disent, ça fait 3 jours que c'est arrivé, puis on ne l'a pas vu. On est découragé. On aurait espéré que ça soit le bon, mais ça n'a pas marché. On voit les autres disciples, parce que Jésus a été crucifié, qui se barricade dans une chambre haute, 120, par peur de représailles pour Jésus. Non, Jésus n'a pas pu compter sur ses disciples pour le sortir du tombeau. Parce que la Bible avait dit, je vais frapper le berger, puis les brebis vont être dispersées. C'est la réalité de la résurrection qui a relancé les apôtres, qui a relancé les disciples avec un courage inégalé. Il fallait qu'ils sachent que c'était vrai la résurrection pour leur donner le courage. Qui aurait voulu mourir pour un mensonge si les disciples, si les apôtres n'avaient pas été sûrs de la résurrection de Jésus-Christ? Ils n'auraient jamais été prêts à mourir pour ça. S'ils avaient dans le fond de leur cœur, ils avaient pensé que Jésus était resté dans la tombe, ils ne seraient jamais morts pour un mensonge. Mais parce qu'ils savaient que Jésus était ressuscité des morts, ils avaient un courage inégalé. En fait, les Écritures racontent aussi, font référence à au moins 10 apparitions de Jésus vivant entre sa résurrection et son ascension. Le tombeau est vide, selon les preuves historiques que l'on a du temps de Jésus, du récit biblique des événements. Si on tourne dans 1 Corinthiens au chapitre 15, Paul affirme 25 ans plus tard, quand il écrit 1 Corinthiens au chapitre 15, 25 ans plus tard, il va affirmer que la résurrection est d'importance cruciale pour le credo de la foi chrétienne. Et lui, il va dire, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Puis il va dire, si Christ n'est pas ressuscité, là, votre foi est vaine, puis vous êtes encore dans vos péchés. 25 ans plus tard, Paul pouvait affirmer la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, ça n'avait pas été contredit. Et même, il continue dans les versets de 1 Corinthiens chapitre 15, il va prendre à témoin. Il va dire, il est apparu à Pierre. Allez, il est demandé, il est encore vivant 25 ans plus tard. Il est apparu à Jacques, il est apparu à Jean, il est apparu aux apôtres. Il est même apparu à 500 frères en même temps, dont la majorité sont encore vivants. Allez le demander! Ils l'ont vu. Et il dit même, il m'est apparu à moi. Comme à l'avorton, ce Jésus-Christ ressuscité et vivant. Paul, 25 ans après la résurrection, pouvait affirmer la réalité de la résurrection. Alors, quand je regarde dans ces dernières semaines les arguments d'un film qui s'appelle Le tombeau perdu de Jésus, je trouve que les arguments n'ont pas de poids. En réalité, on essaie de retrouver que c'est Jésus dans les ossements, un ossuaire, ça contient des ossements. Mais ce que le film ne dit pas trop, c'est que les ossuaires étaient tous vides. Il n'y avait pas un qui avait des os dedans. Alors, on va chercher l'ADN de quelque chose qui n'a pas d'os dedans. Alors, où on prend l'ADN? Dans quelque chose qui est collé chez les ossuaires aux côtés. On essaie d'aller ramasser des morceaux pour essayer d'analyser ça. Ça serait-tu les ossements du mort dedans? Ou de ceux qui ont manipulé les ossements à travers les siècles qu'on va découvrir? En fait, je me demande, comment est-ce qu'on peut découvrir l'ADN de Jésus 2000 ans plus tard? Où est-ce qu'il y a le modèle de base là, pour dire « Ah oui, l'ADN le prouve, c'est lui! » Comment est-ce que les gens peuvent avaler des affaires de même? Comment affirmer que la Marianne, dans un des ossuaires, soit Marie-Madeleine? Et comment affirmer à travers ça qu'elle était la femme de Jésus, puis non pas la femme de Judas, la femme de Joseph ou de Matthieu, parce que c'est tous des noms dans la même famille, dans les mêmes ossuaires? Comment penser que Jésus aurait donné à son fils le nom de Judas, celui qui l'a abandonné? Quelle sorte d'argument que c'est ça? Carney Matheson de l'université Lakehead aux États-Unis, c'est cette université-là qui a mené les tests d'ADN, puis qui a qualifié les résultats de « il n'y a rien là ». comment affirmer que c'est bel et bien le tombeau de Jésus? Lorsqu'on considère qu'il y a à peu près 900 cavernes tombeaux à l'intérieur de 4 kilomètres de la vieille ville de Jérusalem, il y en a 900 des cavernes tombeaux qu'on a découvertes, puis dans ces 900-là, le nom de Jésus apparaît 71 fois. Comment ça se fait que dans celui-là, on dit « Ah, ça c'est le bon ». Alors, un jour, je vais probablement mourir si le Seigneur ne revient pas. J'espère qu'il va revenir avant. Mais si je meurs, puis qu'on met dans une tombe, puis qu'on écrit René, l'abbé, puis 200 ans plus tard, l'abbé est gratté, puis qu'il voit juste René, dans la ville de Québec, certainement 200 ans après, ils vont dire, hey, c'est René l'abbé, ça. C'est certain. Pensez pas? Peut-être que ça va être René Lévesque qui vont dire, mais je ne sais pas ce qu'ils sont. Mais, 2000 ans plus tard, à l'intérieur de la ville de Jérusalem, où les noms les plus communs de ce temps-là étaient Jésus, Joseph, Marie, comme c'est René, Daniel, David aujourd'hui, les noms les plus communs, on trouve le nom de Jésus sur un ossuaire, puis on dit, c'est Jésus de Nazareth. Et je me pose d'autres questions. Comment ça se fait que, de ce que je comprends de Jésus de Nazareth, il était pauvre, Jésus, et il venait de Nazareth, il venait pas de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'un riche tombeau de la famille pauvre de Jésus se retrouverait à Jérusalem en Judée, alors que la famille de Jésus venait de Nazareth en Galilée? Ça clique pas bien. Et dans le record de la Bible, on a dans les évangiles le nom des frères et on nous dit que Jésus a des sœurs, mais on a le nom de ses frères. Et dans le récit de l'évangile, aucun de ses frères s'appelle Matthieu. Puis les ossuaires, dans cet ossuaire-là, il y en a un qui s'appelle Matthieu. Et là, on dit, ça doit être l'apôtre Matthieu. Et je me demande, comment est-ce que l'apôtre Matthieu aurait pu se retrouver dans le tombeau de famille de Jésus de Nazareth? Les évidences ne sont pas là, malheureusement. En fait, la découverte du tombeau en 1980, ça fait plus de 26 ans de ça, en 1980, n'a pas fait sensation en 1980 parmi les archéologues, particulièrement les archéologues d'Israël. Il y a un professeur d'une université là-bas qui s'appelle professeur Amos Kloner, qui était impliqué dans l'étude du tombeau et a publié ses résultats en 1996 en disant « C'est une belle histoire pour la télévision ». Mais sans aucune preuve scientifique, c'est absurde. Ça, c'est sûr qu'il a regardé ça. Il a dit quelque chose de Dieu. Il a dit, c'est une belle histoire pour la TV. Il y en a qui ont ramassé ça, par exemple. Puis, ils en ont fait une belle histoire pour la TV. Oui, c'est absurde de chercher chez les morts celui qui est vivant. L'ange a bien dit aux gens qui sont venus au tombeau, pourquoi cherchez-vous chez les morts celui qui est vivant? Est-ce que j'ai des évidences que le tombeau est vide? Oui, Jésus l'a dit. Est-ce que j'ai des évidences? Oui, je regarde les faits historiques qui corroborent la résurrection de Jésus-Christ. Et ils sont tellement lourds de poids comparés aux arguments contraires. Mais j'aimerais vous présenter un troisième argument. Pourquoi je suis certain que le tombeau est vide? Le tombeau est vide parce que Jésus, il vit en moi. Il n'est plus dans le tombeau. Il est dans la vie de chaque croyant. S'il était mort, il ne serait pas en vous, les croyants. Tournez avec moi dans Galates, au chapitre 2, le verset 20. Paul affirme dans Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ ». Et il dit, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. « Si je vis maintenant dans la chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je suis convaincu que le tombeau est bel et bien vide et que Jésus est bel et bien ressuscité parce qu'il est vivant en moi. » Et là, ça m'amène à une question plus difficile. Quelle évidence ai-je en moi? quelle évidence avez-vous en vous que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité? Et cette semaine, mon cœur était rempli de joie à penser à ça. Voyez-vous, Jésus est vivant parce que mes péchés sont pardonnés. Pourquoi est-ce que je sais aussi que mes péchés sont pardonnés? Ma culpabilité passée est disparue. Parce que j'ai cru que Jésus a été livré pour mes offenses. Il a été ressuscité pour ma justification, dit Romains chapitre 4, verset 25. Mes péchés sont pardonnés. Ma culpabilité des péchés est disparue. Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant, il habite en moi et par conséquent, j'ai l'assurance de mon salut éternel. J'ai l'assurance de la présence, par la présence du Seigneur Jésus. Et je peux chanter avec joie le jour de Pâques ou les autres jours. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus en moi. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que c'est évident pour vous? Puis est-ce que ça devient évident pour les autres? Que vous êtes une personne pardonnée. Que vous êtes une personne avec l'assurance dans le futur de la vie éternelle. Que vous êtes une personne avec la présence de Jésus en vous. Paul dit, « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. » Ce Fils de Dieu-là dirige sa vie. Il doit diriger ma vie. Il doit diriger ma destinée. Ma destinée est entre dans la sécurité de ses mains à lui parce qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant parce que jour après jour, je me nourris de sa parole. Je me nourris de ses promesses. Et sa parole et ses promesses fortifient ma foi. Sa parole et ses promesses me façonnent de plus en plus à lui. J'ai l'espérance vivante de la mort, de voir Jésus un jour avec mes yeux, de vivre pour l'éternité avec lui. Et c'est parce que Jésus est vivant qu'il vit en moi. Est-ce que vous avez aussi cette assurance-là, cette évidence-là dans votre propre vie? J'aime Job que l'on regarde dans l'école du dimanche avec Dominique dans les dernières semaines. Job 19, 25, il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Moi-même, je contemplerai Dieu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Et il termine en disant, « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Cette espérance que je vois dans Job qui allait voir Dieu, qui allait ressusciter lui aussi, cette espérance est la même pour moi parce que Jésus est vivant. Ça nous arrive, ça vous arrive certainement d'assister à des funérailles de chrétiens. Et évidemment, dans ces funérailles-là, il y a des temps de tristesse. Mais quand j'assiste à des funérailles de chrétiens, il y a aussi une paix profonde qui m'envahit. Il y a aussi une joie profonde qui m'envahit, qui m'habite, parce que je sais que Jésus a été le premier à traverser la mort, de s'asseoir à la droite du Père maintenant, puis d'intercéder pour nous. Qui a promis de non seulement traverser la mort, mais de nous préparer une place au ciel avec lui. Et quand je vais avec des funérailles de chrétiens, il y a cette joie-là encore dans mon cœur. Récemment, c'était Mme Mayou qui m'avait influencé dans l'éducation chrétienne. Et je peux penser de la voir partir avec la paix dans le cœur, parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, puis quand elle va être prête, je vais venir vous chercher. Puis il est venu le faire. Ça, c'est une évidence dans ma vie. Que le tombeau est véritablement vide parce que Jésus est véritablement vivant. Est-ce que les autres ont-ils cette évidence en nous regardant? Est-ce qu'ils voient Jésus vivant en nous? Parce que l'expérience d'être né de nouveau, d'être passé de la mort à la vie, c'est un privilège que les croyants possèdent plutôt que les non-croyants. Et c'est pourquoi, quand on vient le temps de Pâques, la résurrection nous est chère, parce que nous sommes nous-mêmes passés de la mort à la vie en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Parce que le non-croyant, lui, n'a pas cette certitude, il n'a pas cette expérience, et par conséquent, il n'a pas cet intérêt dans cette affaire de résurrection. C'est bien mieux des chocolats avec des lapins, puis des fleurs de lys. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience que nous avons vécue, que nous vivons. Qu'est-ce que les gens voient à travers nos vies? Est-ce qu'ils savent, à travers notre témoignage, que non seulement Jésus, il est vivant, mais qu'il offre maintenant la vie éternelle à quiconque croit en lui? Est-ce qu'ils voient assez Jésus dans nos vies? et être convaincu de l'assurance de la vie éternelle que nous avons pour dire, moi j'aimerais donc ça avoir l'assurance que toi tu as. Et là, de leur être capable de leur dire, tu sais, Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il t'invite, toi aussi, à le connaître personnellement, à être pardonné de tes péchés, à avoir l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que c'est si évident dans nos vies que Jésus est vivant, de sorte que les gens nous invitent à savoir pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'ils ont entendu de nous que parce que Jésus est vivant et qu'il est monté au ciel, il est par conséquent le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et par conséquent, les religions à travers le monde sont inutiles et même trompeuses? Ah, cette semaine, il y avait des pensées qui venaient dans ma tête. Si le tombeau est vide, alors mon cœur est habité. Et si je crois que le tombeau est habité, si je crois que le tombeau de Jésus est habité, c'est parce que mon cœur est vide, parce que Jésus n'est pas là. Pour plusieurs, pour les incroyants, ils pensent que le tombeau de Jésus est encore habité. Par conséquent, leur cœur est vide. Mais pour nous, les croyants, nous avons cette assurance que le tombeau de Jésus est bel et bien vide. Et par conséquent, notre cœur est habité de sa bienheureuse présence. Moi, j'étais aussi en Israël il y a quelques années, puis en Israël, il y a plusieurs endroits où on dit « Ah, ça, c'est le tombeau de Jésus, ça, c'est le tombeau de Jésus. » Puis il y avait un endroit qu'on appelle le Gordon Calvary, puis juste à côté, il y a un endroit où ça semble être, c'est dans les photos que l'on a. C'est encourageant de voir que c'est vide, mais c'est pas parce que je vois un trou dans un tombeau. C'est parce qu'il est dans ma vie. C'est pour ça que je sais que le tombeau est vide. J'ai pas besoin d'aller en Israël pour voir des tombeaux vides. J'ai juste besoin de regarder dans ma vie. On a juste besoin de regarder dans notre vie pour voir que Jésus est vivant. Alors, célébrons Pâques ce matin, aujourd'hui, comme l'événement le plus grandiose de l'histoire. L'événement qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. L'événement qui nous donne l'assurance qu'on est éternellement en sécurité avec lui. Et saluons-nous, un peu comme Justin nous mentionnait tantôt ce matin. Les premiers chrétiens, ils ne disaient pas bonjour quand ils se rencontraient. Ils ne disaient même pas joyeuse Pâques quand ils se rencontraient. Ils disaient, le Seigneur est réellement ressuscité. Luc chapitre 24, verset 34. Disons-le, répétons-le entre nous et avec ceux qui nous entourent. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est vivant en moi. C'est vrai dans vos vies, ça? Oh, Seigneur mon Dieu, je me réjouis ce matin de savoir que 2000 ans ont passé et que cette vérité fondamentale demeure toujours inébranlable. Le tombeau est vide. Jésus est vivant et il vit dans le cœur de chaque croyant. Oh, Seigneur, merci pour cette assurance. Merci pour cette joie. Et Seigneur, donne-nous la grâce de refléter cette joie et cette assurance vers ceux qui n'ont pas cette certitude du tombeau vide, parce que leur cœur est encore vide. Donne-nous, Seigneur, de leur partager que Jésus est vivant et qu'il désire entrer en eux, comme il l'a fait en nous. Nous te louons ce matin au nom de Jésus. Amen.